Eh bien, je vais convoquer le Parlement et je lui ordonnerai de me procurer de l'argent.
Le Parlement ? Le roi d'Angleterre ? Allez, chapeau bas devant les hommes du peuple commun !
Un mendiant !
Oui !
L'Angleterre en révolution, troisième épisode, 1660-1688, de la Restauration à la Glorieuse Révolution.
Au centre de l'abbaye, en haut d'une estrade tendue de rouge, on remarquait le trône. C'était un fauteuil, avec un petit tabouret. Tous les dignitaires, quels qu'ils soient, avaient une veste rouge, ainsi d'ailleurs que le moindre violoniste. Enfin, le doyen de Westminster a fait son entrée, accompagné des prébendiers et suivi des évêques, la plupart revêtus de chapes dorées. Après eux, les nobles, tous en robe de membres du Parlement. C'était magnifique. Lorsqu'on a posé la couronne sur la tête du roi, une grande clameur s'est élevée. Le roi est alors monté sur le trône, où le cérémonial s'est poursuivi.
Si l'un d'entre vous connaît une raison pour laquelle Charles Stuart ne doit pas être roi d'Angleterre, qu'il s'avance et qu'il parle.
La marche de l'histoire. Jean Lebrun sur France Inter.
Avec un extrait du journal de Samuel Pepys, journal fameux d'un bourgeois de Londres qui n'était pas ordinaire. Et notre invité aujourd'hui, Edmond Ziembrowski, bonjour.
Bonjour.
Qui vient de publier chez Perrin, Le siècle des révolutions. Donc, Pepys nous racontait la pompe, la liesse qui entourait le retour d'exil en 1660 de Charles II, qui, comme un certain nombre des personnages que nous suivons depuis le début de cette semaine, manifestait un certain humour en disant « J'ai vraiment été idiot de ne pas rentrer plus vite ».
Exactement.
Oui. Comment est-il, Charles II ?
Charles II,
fils de Charles Ier d'exécuté.
Fils de Charles Ier, mais alors on pourrait dire qu'il est presque à l'opposé de son père. C'est un pragmatique. Autant le père était rigide, autant le fils est souple, pragmatique. Il a du sang français, il faut jamais l'oublier. C'est le petit-fils de Henri IV. Et il a du Henri IV à la fois dans sa vie personnelle, sa vie très 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 chargée, et également, dans sa manière de gouverner. C'est un homme qui recherche le consensus, qui cherche le plus large accord possible avec la classe politique. Ce n'est pas facile tout de même, parce que lorsqu'il arrive en Angleterre en 1660, il y a tout l'héritage, bien entendu, de la Révolution, du protectorat de Cromwell, et dans cet héritage, il y a un double défi finalement qui attend Charles II. Le premier, c'est le défi religieux. Le deuxième, c'est la question institutionnelle et notamment la place des finances royales, dans cet édifice institutionnel.
Alors
et
on prend les deux points. Le défi religieux, les puritains ne sont plus un parti politique. Ils gardent une grande dévotion, une grande activité. La Restauration, c'est le moment de la publication des grands livres qui éclairent le puritanisme. Pilgrim's Progress de Bunyan, et puis Le Paradis Perdu de Milton, que vous savez par cœur, j'imagine, oui. Edmond Ziembrowski. C'est le retour, la Restauration, de l'épiscopat.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire que la Restauration, alors si on prend justement l'appellation Restauration, bien entendu, Restauration de quoi finalement ? Restauration d'abord, tentative en tout cas de restauration de la situation religieuse, de l'état de fait religieux qui existait avant la Révolution. Est-ce que c'est réussi ? Je dirais oui et non. L'objectif était justement de restaurer l'épiscopat, c'est fait, de restaurer également l'anglicanisme en tant que religion dominante et quasi exclusive, là, ça a été un échec pour Charles II. Charles II aurait bien aimé, bien entendu, cette restauration de l'anglicanisme, mais Charles II voulait également parvenir à un accord avec ceux qu'on appelait les puritains. Le problème, c'est très rapidement, il s'est retrouvé confronté à un parlement qui pourtant était composé de ses partisans, qu'on appelait le parlement cavalier. Eh bien, ce parlement cavalier était plus royaliste, je dirais, que le roi dans ce domaine. C'est-à-dire que ce parlement cavalier a voté des mesures qui progressivement ont écarté, je dirais, de la sphère publique, eh bien, ces anciens puritains qui sont devenus ce qu'on appelle les dissidents ou encore les non-conformistes. Et donc, ça a été très largement un échec.
Le Parlement cavalier va s'effilocher. Le soutien du Parlement cavalier au roi va peu à peu décliner. Ça n'avait pas si mal commencé sur le plan financier. Vous disiez que le deuxième défi, c'était le défi financier. On sait que le roi d'Angleterre a le sien propre, c'est-à-dire quelques ressources fixes. Le Parlement cavalier lui vaut un subside annuel, mais enfin, quand il s'agit par exemple de dépenses exceptionnelles, de dépenses de guerre. Alors nous sommes toujours dans le journal de Samuel Pepys qui se faufile toujours au premier rang.
27 juillet, à Westminster, j'ai eu la chance d'arriver au moment où la Chambre des communes se rendait à la Chambre des Lords. Je suis entré en même temps que le président et j'ai pu me tenir tout près de lui pendant qu'il faisait sa harangue au roi qui siégeait, couronne en tête, en robe d'apparat. On a voté des subventions au roi. Voici le cérémonial. Le greffier du Parlement lit le titre de l'acte, puis va à la fin où se trouve la formule « Le roi le veut ». Après les votes, le roi, assis sur le trône, a lu tout son discours sur un papier qu'il tenait sur ses genoux.
Nous remercions le Parlement des subventions accordées. Nous ne les aurions certes pas demandées si nous n'en avions eu grand besoin, et cela non par prodigalité, mais parce qu'en s'étant troublés, nous nous voyons contraints d'être à la charge de l'État plus que nous ne l'aurions voulu. D'autre part, les ressources nouvelles exigées par la préparation de nos armées à une guerre que Dieu nous épargnera peut-être, ces ressources nous ont entraînés pour le bien de tous à des dépenses imprévues mais légitimées par le bien que nous voulons à notre peuple.
Une adaptation du journal de Samuel Pepys pour France Culture, par Claude Mourtet. Le roi Charles II, le roi d'Angleterre, en règle générale, il voudrait bien imiter le roi de France, avoir une armée permanente, ne pas devoir quémander les impôts. Puis il aimerait bien avoir une stature internationale plus importante, et il va se mettre en tête de s'affronter avec les Provinces Unies.
Alors, la position du roi d'Angleterre est extrêmement fragile dans le domaine financier, car en effet, l'objectif de Charles II et de d'ailleurs son père, c'était de mener une politique étrangère ambitieuse. Mais lorsqu'on regarde la situation avec du recul, on s'aperçoit que depuis Élisabeth, l'Angleterre est devenue une puissance de second rang dans l'échiquier international. Et pourquoi ? Tout simplement parce que le roi n'a pas les moyens financiers de mener cette politique. Notamment, il ne dispose pas d'un impôt permanent, ce que le roi de France a réussi à obtenir depuis très très longtemps. Pas d'impôt permanent, donc pas d'armée, bien entendu, permanente. Et ça signifie que, en cas de tension internationale, le roi d'Angleterre est obligé d'aller mendier, littéralement, devant le Parlement, eh bien, des subsides qui ne lui sont accordés que pour un temps limité.
Tandis que, quand Louis XIV fait la guerre aux marchands de fromage, enfin, je veux dire, les Provinces-Unies, lui, il a les mains libres. Il n'est pas obligé de reculer comme Charles II va devoir le faire devant le Parlement.
Exactement. Alors, on examine la restauration sous l'angle international, ça a été une époque, eh bien, qui a vu s'aggraver encore ce déclin international de l'Angleterre, qui a participé à certaines guerres. Vous avez évoqué les Provinces-Unies, notamment. Charles II avait négocié un traité avec Louis XIV, le fameux traité de Douvres, qui l'engageait à intervenir aux côtés du roi de France. Ça a provoqué des tensions absolument extraordinaires au Parlement.
Le Parlement cavalier finit par être dissous. Il en est élu un autre, qui est encore plus défavorable au roi, et c'est à ce moment précis qu'éclate la crise
de l'exclusion.
Crise de l'exclusion. Le roi Charles II est marié avec une catholique, c'est une habitude chez les Stuarts, laquelle n'a pas d'enfant. Il a un frère, lequel est converti ostensiblement au catholicisme. Oui. Le duc d'York, ayant perdu sa première femme, il se marie tout aussi ostensiblement avec une duchesse de Modène. Il n'y a rien de plus catholique que le duché de Modène en Italie. Oui. Papisme égale France, égale tyrannie. Les protestants de tout poil poussent les hauts cris. Oui. Alors, vous voyez dans la protestation des protestants quelque chose qui ressemble au complotisme. Mais oui. Il y a une personnalité qui est assez étonnante qui s'appelle Titus Oates.
Titus Oates.
Qui invente toutes sortes de trucs sur le complot papiste.
Oui. Alors c'est Titus Oates, s'il fallait vraiment, c'est quelqu'un qui a, qui est vraiment le très très révélateur de cette hantise antipapiste qui s'est développée d'ailleurs depuis des années, depuis d'ailleurs le début du siècle. Mais cette hantise antipapiste devient de plus en plus marquée à mesure que les Anglais croient en effet qu'il y a une sorte de conspiration qui serait ourdie par le pape, le roi de France Louis XIV, bien entendu, celui qui est vu comme l'émissaire du papisme en Angleterre, c'est-à-dire le frère du roi, Jacques, le duc d'York, le futur Jacques II.
Alors Titus le Parlement Hautes, vote, hein, oui, allez-y sur oui, Titus Oates, ça fait image ce personnage,
c'est un personnage absolument incroyable, c'est un aventurier qui a roulé sa bosse un petit peu partout en Europe, et qui revient en Angleterre au moment où l'antipapisme est déjà très très vif, et il invente littéralement un complot, donc, et qu'il présente devant la classe politique et qui mord tout de suite à l'hameçon, c'est-à-dire que le Parlement se réunit en 1678 et déclare qu'il y a une conspiration diabolique, ce sont ces termes, contre l'État, contre le roi, visant à établir à la fois le despotisme et le papisme.
Et l'autre Parlement qui succède en 1680 vote le bill d'exclusion de la succession du duc d'York, ce que refuse absolument le roi Charles II.
Talk of the exclusion of the Duke of York from the rightful
succession. Parler de l'exclusion du duc d'York de la succession légitime est une trahison. Ceux qui en parlent s'inscrivent contre l'autorité légitime et sont en esprit les héritiers des rebelles qui ont plongé notre pays dans la rébellion et la guerre civile.
Can anyone here contemplate such evil without horror?
Quelqu'un ici peut-il contempler un tel fléau sans horreur ?
Let there be no confusion. The Duke of York.
Qu'il n'y ait aucune confusion possible. Le duc d'York est mon héritier et le restera.
His right is ordained by God.
Son droit est établi par Dieu.
No man may alter it.
Et aucun homme ne pourra changer cela.
Anyone who denies this truth makes themselves an enemy.
Quiconque met en doute cette vérité se fait un ennemi de Dieu, du roi et du pays.
Gentlemen, go home.
Messieurs, rentrez chez vous.
I will not trouble you any further.
Je ne vous ennuierai pas plus.
Le roi tiendra bon, le duc d'York lui succédera en 1685 et le roi il est appuyé par les Tories qui craignent le retour aux guerres civiles, qui tiennent aux privilèges du roi, parce que tout un équilibre tomberait si le roi tombait, et face à eux il y a les Whigs, qui eux sont sur partisans d'une théorie du contrat plutôt que d'une théorie du droit divin, c'est ça qu'on peut dire.
Voilà, on a les deux théories antagonistes qui ont vraiment émergé nettement pendant la crise de l'exclusion, c'est-à-dire d'une part les Whigs qui eux sont défendent une théorie contractuelle selon laquelle la monarchie n'est pas de droit divin mais fondée sur le droit naturel, le roi et dépend de cette théorie contractuelle, tandis que les Tories, eux,
eh bien, sont attachés de manière farouche à cette théorie du droit divin, hein, qui est vraiment le socle même du taoïsme. Ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que ces taoïstes sont majoritaires dans le pays. Les Whigs font peur. Les Whigs, avec leur théorie contractuelle, rappellent, comme on l'a entendu d'ailleurs,
rappellent.
1640 et la suite.
1685, donc le roi mort. Je pense que John Bow a participé à ses obsèques, puisqu'il a été tour à tour organiste Westminster, puis maître de chapelle à la cathédrale Saint-Paul. « Ô Seigneur, nous avons péché, John Bow. »
La marche de l'histoire, Jean Lebrun sur France Inter.
1685, 1688, maintenant le règne bref de Jacques II en compagnie d'Edmond Ziembrowski qui publie chez Perrin le siècle des révolutions, une synthèse autrement vaste. Allez, petit portrait de Jacques II, tempérament un peu autoritaire. Hein.
Très différent de celui de son frère.
Catholique, bouillant.
Catholique. Quelqu'un également qui a de la suite dans les idées, c'est-à-dire que pour lui, son objectif, c'est ne pas, non pas comme parfois on l'a dit, de rétablir le catholicisme comme religion d'État, mais son but, c'est de parvenir à l'égalité des droits entre catholiques et protestants et anglicans.
Alors ça, c'est difficilement concevable. Combien y a-t-il de catholiques dans le royaume d'Angleterre et dans
environ
le royaume d'Écosse ?
Environ entre 1 à 2% de la population.
Ah, oui.
C'est-à-dire quelques dizaines de milliers de catholiques pour une population d'environ 2,5 millions d'habitants. Autant vous dire que c'est un grain de sable dans cette Angleterre.
1687, il en appelle à la liberté de conscience, disant quand même que son souhait, il ose l'écrire, c'est que les sujets de ces royaumes redeviennent membres de l'Église catholique. Alors, il va déguiser son intention derrière une défense de la tolérance, mieux encore de la liberté de conscience. Notez que ce que Jacques II écrit se passe 2 ans après la révocation de l'édit de Nantes par Louis XIV, son ami. Là, les protestants ont senti ce qu'était la liberté de conscience pour les catholiques.
Le roi Jacques s'est forcé d'obtenir du Parlement, des évêques et des partis politiques la liberté de conscience pour tous les habitants des trois royaumes, y compris les dissidents et les catholiques. Le roi prétendait simplement user de son droit de grâce en dispensant certaines communautés de ces trois royaumes des amendes et des exclusions jusqu'ici promulguées contre elles. Le Parlement, et surtout les communes, estimèrent, au cours de débats d'une violence inouïe, que le roi excédait son pouvoir et violait les droits du peuple en usant d'indulgence et en prononçant des dispenses.
Parce que vous nous avez expliqué que les Tories et l'Église d'Angleterre étaient les alliés naturels de la monarchie. Et là, ils les abandonnent en rase campagne en essayant de constituer une alliance entre les puritains, les non-conformistes et les catholiques, deux minorités.
C'est le gros mystère de la, du règne de Jacques II. Cet homme s'est enferré dans une logique qui était littéralement suicidaire. C'est-à-dire qu'il a, il a préféré soutenir les dissidents, c'est-à-dire les anciens puritains, plutôt que de s'appuyer sur ses fidèles sujets Tories, qui eux étaient farouchement anglicans. Le problème était là, c'est que ces Tories respectent l'autorité royale, pour eux c'est leur raison d'être politique, mais en même temps, ces mêmes Tories sont très très attachés à l'anglicanisme. Et pour eux, Jacques II, malgré le fait qu'il soit roi et que donc il détient son pouvoir de Dieu, malgré eh bien cette ce fait, eh bien ces Tories commencent à être déçus de l'attitude du roi et à partir de 1687 et le début de l'année 88, ils entrent en, on pourrait dire, en résistance.
D'autant que Jacques II n'avait pas d'enfant de la duchesse très catholique de Modène. Non, et puis voici que s'annonce un heureux événement.
Et voilà.
Et un garçon.
Et un garçon.
Bon,
un
ça,
garçon.
C'est un complot.
Il est, alors, soi-disant, il, alors, tout de suite, c'est ce que on entend dire. Ce n'est pas son fils, bien entendu.
On a mis un bébé dans le lit de la reine.
On aurait mis un bébé dans le lit de la reine. Et, bien entendu, une grande partie de la population anglaise y croit. Et même mieux, à l'étranger, celui qui regarde ça avec beaucoup d'intérêt, qui s'appelle Guillaume d'Orange, qui est le gendre de Jacques II, il a épousé la princesse Marie.
Parce que Jacques II a eu deux filles, l'aînée d'entre elles c'est Marie, et elle pourrait être une solution de substitution.
Exactement.
Si j'ose employer encore le mot substitution.
Voilà, exactement.
Et le prince d'Orange, c'est le statudaire, c'est un beau titre, enfin le chef militaire des provinces uniques.
Le chef militaire des provinces
uniques. Donc il a une flotte et des bons hommes.
Il a une flotte et des bons hommes, il a aussi beaucoup d'ambition et de... Et également, n'oublions pas que Guillaume d'Orange est l'ennemi personnel, vraiment l'ennemi acharné de Louis XIV. À une époque où des nuages, eh bien, sont en train de s'amonceler sur l'Europe.
Attendez, Louis XIV, il aurait dû soutenir Jacques II.
Ouais, oui, il aurait dû soutenir Jacques II. Mais le problème, c'est que Louis XIV a été totalement abasourdi par la conduite de Jacques II, qui n'a pas demandé l'aide de la France. Et Louis XIV, au même moment, prépare une intervention en Allemagne.
Et donc, il préfère intervenir en Allemagne que soutenir Jacques II.
Exactement.
Et vous dites, c'est un des moments les plus importants du règne de Louis XIV. Et c'est là qu'intervient, miracle, le vent protestant. Parce que Jacques II a une armée de métier, parce qu'il a réussi à constituer une armée. Il a une flotte dans ses ports de la Tamise. Le prince d'Orange monte vers l'Angleterre. Et le vent protestant fait la décision.
Qu'est-ce que c'est
le vent protestant?
Alors, le vent protestant, c'est une expression qui remonte à l'époque d'Élisabeth déjà, lorsque la flotte, l'invincible armada de Philippe II a été en partie détruite par la tempête. Immédiatement, la propagande d'Élisabeth Ière a développé ce thème du vent protestant. Et en 1688, on reprend littéralement cette expression, et d'ailleurs, mieux encore, on fait débarquer Guillaume d'Orange un 5 novembre. Et le 5 novembre, c'est le jour où a été démantelée la conspiration papiste des poudres au début du XVIIe siècle. Donc, il s'agit véritablement de présenter l'intervention de Guillaume comme providentielle.
C'est-à-dire que le vent protestant pousse les voiles de la flotte de Guillaume et retient dans les ports de la Tamise les bateaux de Jacques II, qui ne fait pas beaucoup intervenir son armée. Il faut lui reconnaître le mérite de ne pas avoir provoqué trop de morts et qui se retrouve prisonnier de Guillaume d'Orange. Analyse spectrale de l'Occident, une émission très catholique de France Culture naguère.
Allez dire aux ministres étrangers, aux lords et aux gentlemen qui sont dans Whitehall que le prince d'Orange s'est emparé de ma personne et me fait conduire sous bonne garde à Rochester pour y être détenu jusqu'à nouvel avis.
Nous n'en ferons rien.
Il ne faut pas aigrir une circonstance déjà fâcheuse en soi.
Le prince d'Orange nous a remis un passeport.
Un passeport? Pour moi? Quelle sottise!
Non, sire. Pour la reine.
Et pour l'enfant qui accompagne la reine.
La reine et le prince de Galles, mon fils, sont en sûreté. Monsieur de Lauzun les a conduits en France. L'injustice et le désordre apportent la mort.
Nous pensons que la volonté du pays crée le droit de ce pays.
Nous le pensons unanimement.
Une décision contraire à la morale est nulle. Les enfants qui dépouillent leur père ne peuvent bâtir une maison sainte.
Nos consciences sont déchirées, sire. Mais nous obéissons à la puissance des choses.
Oh, hypocrisie. Ceci n'est pas supportable. Vous n'avez rien qui puisse se déchirer. Vous n'avez pas de conscience. Vous êtes des sépulcres blanchis. Vous n'avez de religion que le culte du veau d'or et de la puissance. Vous cherchez un mannequin couronné derrière lequel vous puissiez vous enrichir sans scrupule et, trompant le peuple, lui montrer un fantôme de roi qui fera peur aux pauvres gens, tandis que vous gouvernerez derrière ce simulacre.
Guillaume d'Orange et Marie, sa femme, vont en effet monter sur le trône et ils ont l'habileté de ne pas faire de procès à Jacques II. Il y a déjà eu un roi martyr au XVIIe, ça suffit. Jacques II s'en va rejoindre sa femme et son fils qui ont été exfiltrés par Louis XIV au château de Saint-Germain-en-Laye. La volonté du pays crée le droit du pays. Nous obéissons à la puissance des choses, disent ceux qui déclinent le soutien de Jacques II. C'est la théorie du contrat qui va l'emporter là sur la théorie du droit divin.
La théorie du contrat l'emporte avec ce texte de loi fondamental qui s'appelle la Déclaration des droits, qui est votée par le Parlement en février 1689. C'est vraiment l'acte 1 de la Révolution, on pourrait dire. C'est-à-dire que là, on a désormais les droits du Parlement qui sont établis noir sur blanc. La monarchie est limitée, notamment dans sa marge de manœuvre financière, sa marge de manœuvre militaire, et on voit apparaître progressivement ce qui sera le modèle anglais du XVIIIe siècle qui séduira autant des écrivains comme Voltaire ou Montesquieu.
Et qui sera issu en partie de John Locke, qui a joué un rôle souterrain dans toute cette période. C'est pas une constitution, c'est un contrat implicite pour l'établissement de la paix civile à venir. Et d'abord, avant un texte fondateur, une récapitulation des défauts des monarchies successives. Mais... Juste un mot, parce que c'est un propos important dans votre siècle des révolutions, Edmond Ziemblowski, chez Perrin, 1689 en Angleterre, 1789 en France.
1689 a été une révolution restauratrice, d'intention restauratrice. Elle a tenté de mettre fin aux dérives qui étaient celles de la monarchie, tandis que, 100 ans plus tard, nous avons affaire à une révolution désormais fondatrice d'un ordre nouveau.
C'est-à-dire que d'un côté, la Révolution anglaise réaccentue ce qui existait déjà, met des accentuations différentes. Mm-hmm. La Révolution française va plonger dans un temps nouveau.
Dans un temps nouveau. Et c'est ce qu'a bien vu notamment Burke, qui a
John
comparé.
Burke, réflexion sur la Révolution, ça apparaît aussitôt après le début de la Révolution française.
En 1790, oui. Ouais. Oui, c'est ça.
C'est pour ça que Margaret Thatcher, au moment du bicentenaire de la Révolution française en 1789, a rappelé que l'Angleterre a quelques droits antécédents sur le mot « révolution ».
Oui, mais ce n'est pas tout à fait la même révolution.
C'est une glorieuse révolution sans mort, mais vous conviendrez que l'histoire de la liberté peut s'écrire en plusieurs langues.
Exactement.
En anglais et en français. L'émission a été préparée par Franck Livard, Ninka Negulesco, Frédéric Martin, à la réalisation Étienne Bertin, Pierre-Yves De Rolin à la technique, et dans un instant, Fabrice Drouel, bonjour.
Bonjour Jean Lebrun. 1957, quand 9 lycéens noirs entrent et suivent des cours dans un lycée réservé aux blancs dans l'Arkansas, la population ségrégationniste est ivre de colère, et Eisenhower soutient ces lycéens noirs qui peuvent justement suivre leurs cours pendant un an.
Little Rock dans un instant dans Affaires Sensibles.